Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc, Bouffon, à manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher devant le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
On parle de bouffe, de plat, tout ça, et on en oublierait presque de parler de restaurant. Alors, si on vous en conseille, on parle un peu de ce qui se passe dans les assiettes et dans les cocottes, mais on n'a jamais parlé de l'endroit restaurant comme un lieu à part avec ses codes, ses écueils et ses règles à respecter. Et j'imaginais un peu cet épisode comme un manuel, un guide du point de vue du client comme celui du chef, avec deux invités qui vont parler depuis la salle et depuis les fourneaux. En deuxième partie, j'ai invité celui qui m'a donné l'idée de faire cet épisode, Tommaso Melilli, qui a écrit Spaghetti Wars, un livre où il raconte son expérience de chef et comment, depuis la cuisine, il voyait les clients, leurs attitudes, leurs comportements. Et c'est en le lisant que je me suis dit que ce serait marrant de parler de tout ça dans Bouffon.
Je me réveille le matin et j'ai très envie de cuisiner des blettes. J'ai très envie de blettes. Du coup, je me mets à travailler beaucoup sur ces blettes. Et après, il se peut que ça devienne une entrée ou un accompagnement de la viande ou du poisson. Et après, c'est un puzzle. À un moment donné, il reste des places libres et on essaie de caler ce qui est au fur et à mesure de la matinée, mais ça se passe en 1h30. Hein.
Mais d'abord, parlons de nous, les clients, et essayons de savoir ce qui sépare le bon du mauvais d'entre nous. Et pour ça, qui de mieux pour nous le raconter que le client des clients, celui qui a vu 10 fois plus de restos que le plus gros des foodies, le critique culinaire. Et j'ai donc proposé au critique des critiques, François-Régis Gaudry, de venir nous éclairer dans cette quête pour devenir de meilleurs clients. Alors, vous connaissez sans doute son travail, mais au cas où, petit rappel, il anime On va déguster sur France Inter, où tous les dimanches il parle de cuisine. Il fait aussi très très bon sur Paris Première, mais surtout, il chronique la cuisine et les restos pour L'Express depuis des années. C'est un critique, un des derniers en fait. Enfin, en tout cas, un des derniers de son genre, rémunéré par un journal pour parler de cuisine. Parce que le métier évolue, et la critique aussi. Une évolution qu'il voit avec un œil bienveillant d'ailleurs. On a justement ouvert la discussion là-dessus parce que, avant de parler du sujet de l'épisode, je n'ai pas pu m'empêcher de profiter du fait de l'avoir à mon micro pour le cuisiner un peu sur son quotidien.
Moi, je me dis juste que je suis dans une situation où j'ai la chance de travailler pour des médias, pourvu que ça dure, qui ont encore les moyens en fait, de financer mon train de vie de critique gastronomique. C'est vrai que je ne me pose pas de questions lorsqu'il y a un restaurant ambitieux qui ouvre, lorsque l'addition est a priori assez élevée. J'ai les moyens par l'hebdomadaire pour lequel je travaille et puis par mon émission très très bon pour Paris Première, d'y aller sans trop me poser de questions, sans me dire mais comment je vais faire pour payer l'addition, il faut que j'en prenne une partie sur mon budget personnel et puis le reste c'est mes employeurs. Là je me pose pas de questions, je sais que mes notes de frais sont prises en charge. Je sais aussi qu'on est de plus en plus rare comme critique gastronomique à être dans cette situation. Il y a encore quelques journaux comme Le Figaro par exemple qui considèrent que la gastronomie et la critique gastronomique est un exercice journalistique noble qui mérite effectivement des moyens et qui mérite donc par conséquent des remboursements de notes de frais pour leurs critiques. Mais c'est vrai qu'on est assez isolé dans ce métier. On assiste quand même globalement à une paupérisation du métier de critique gastronomique. Et c'est vrai que celui qui a envie de pratiquer le métier mais qui n'a pas forcément les moyens doit recourir de temps en temps on va dire à des pratiques qui consistent soit à appeler le chef, soit à s'arranger un peu. Et ça, je le distingue de vrais abus qui existent encore aussi dans le milieu, de gens qui, pour le coup, profitent d'un pseudo-statut de journaliste ou de critique gastronomique ou de blogueur ou d'instagrammeur influent pour appeler des chefs, réserver des tables pour 4 personnes, ouais. Et puis s'en mettre plein la panse en s'imaginant qu'ils sont les rois du pétrole. Ça, c'est aussi des comportements qui existent et qui, pour le coup, me paraissent totalement condamnables.
Ouais, parce que c'est vrai que le métier de critique, j'ai l'impression qu'il évolue dans le sens où, même comme tous les métiers de critique, je pense que critique cinéma aussi, critique de livres aussi, parce qu'il y a les youtubeurs, les instagrammeurs, tout ça. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a plus d'instagrammeurs influents qui vont orienter des gens, et même des gens qui ont des métiers, qui font plusieurs casquettes. Je pense par exemple Julien Femme, quelque part, il n'est pas officiellement critique, mais quand il va poster un restaurant sur Instagram, les gens vont le suivre.
Bien sûr.
Et ça, vous le voyez comment, cette évolution? Vous la suivez de près?
Comme une très bonne nouvelle. Mmh. Moi, je le vois comme... D'abord, je pense que le journalisme gastronomique a évolué comme les autres métiers dans le journalisme proportionnellement, en fait, à l'énergie et au dynamisme qu'on observe maintenant dans les médias. On sait que désormais, l'espèce de jugement absolu sur les restaurants, c'est plus dicté uniquement par les médias traditionnels, et en particulier la presse écrite, qui était quand même, pour le coup, le cœur du réacteur en termes d'influence pour la critique gastronomique. Désormais, on peut, entre guillemets, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, s'improviser critique gastronomique, avoir un compte Instagram ou avoir une autre présence sur un autre réseau social, une présence influente, et non pas faire la pluie et le beau temps, mais en tout cas avoir un vrai impact sur la vie des restaurants, leur fréquentation, leur carnet de réservation, etc. Moi, je vois ça comme une excellente nouvelle. D'ailleurs, moi, j'y participe aussi à ma manière. Et oui. J'ai pris un peu le train en marche des réseaux sociaux, et moi, j'y observe des choses vraiment passionnantes. D'abord, je trouve qu'il y a des personnalités qui sortent du lot, qui se distinguent, qui ont un vrai ton, qui ont peut-être aussi parfois une approche photographique ou visuelle très intéressante, qui portent un regard peut-être un peu plus frais, un peu décalé, un peu nouveau, qui sortent des codes, des chemins tout tracés. Et moi, je prends vraiment, vraiment ça comme une bonne nouvelle. Je trouve ça tout à fait enthousiasmant. Pourquoi ? Parce que finalement, on se dit que ça participe tout simplement à cette espèce d'énergie générale auquel je participe moi aussi à ma manière, auquel tu participes avec ton podcast et tes livres et d'autres activités. C'est cette idée que y a désormais une matière, la gastronomie, très intéressante à observer. Et il faut bien se dire aussi que toute cette énergie journalistique sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels, ça encourage aussi les chefs à créer, à être plus innovants, à imaginer de nouveaux restaurants. Et tout ça fait qu'on se retrouve en ce moment dans un milieu gastronomique extrêmement fécond.
Et c'est quoi la routine d'un critique ? Ça vous arrive de manger 3 repas dans la même journée, 3-4 ? Enfin, il y a un truc un peu particulier, des fois un peu absurde.
Ouais, il y a un truc qui peut être un peu, on va pas dire reporter de guerre, parce qu'attention, on fait pas les mêmes métiers, mais il y a une espèce d'urgence comme ça, notamment quand on voyage, à vraiment en faire le plus possible. Et à mettre parfois un peu son estomac à rude épreuve. Et ça arrive. Alors, Paris, j'ai cessé très honnêtement de tester deux restaurants par déjeuner, parce que je m'organise maintenant suffisamment pour répartir les restaurants que j'ai à tester sur toute une semaine. En revanche, quand je voyage, et ça m'arrive assez souvent, j'essaie d'en faire le maximum. Là, il y a quelques semaines, j'étais à Florence, par exemple, une ville où j'avais pas mis les pieds depuis quelques années. J'avais hâte de retourner me frotter à la cuisine toscane, dont j'avais que des souvenirs un peu flous. J'y étais pas allé depuis une quinzaine d'années, 10 ans. Et là, j'ai voulu en faire un maximum, et donc je suis allé jusqu'à faire au déjeuner, au dîner, un restaurant 3 étoiles. Je suis allé chez Enoteca Pinchiori pour faire un dîner en 5 ou 6 plats. Ensuite, j'avais réservé à 10h20, j'avais pressé un peu le service sur le moment, et j'avais réservé dans une espèce de trattoria fusion italo-coréenne. Et là, je me suis vraiment régalé, et j'ai fait un nouveau repas en 5 services. Et puis j'ai fini par un lampredotti, qui est un sandwich à la tripe, et tout ça dans le même soir. Voilà. Donc je fais pas ça ensuite, mais à peu près 48 heures pour digérer. Mais ça m'arrive effectivement par esprit de curiosité. Là, on oublie les contraintes physiologiques, biologiques, son corps qui peut digérer mal, etc. On a vraiment envie d'y aller, d'en voir un maximum, et c'est une espèce de, comment dire, une espèce de curiosité ou de soucis professionnels qui vous anime.
Et du coup, les chefs, ça arrive qu'ils vous reconnaissent, j'imagine que ça arrive souvent. Est-ce que des fois, ils vous accordent des traitements de faveur, ou vous vous rendez compte qu'ils en font un peu trop parce que
oui, vous êtes reconnu ? Oui, ils essayent, mais enfin, faut tenir compte de ça aussi.
Oui.
C'est-à-dire que, bon, assez souvent, ça m'arrive d'être repéré au restaurant pour plein de raisons différentes. D'abord parce qu'il y a des gens que j'ai déjà rencontrés, ou que j'ai déjà interviewés, ou que j'ai eu au téléphone. Il y a des gens qui ont repéré ma photo sur Google. Il y a même, figurez-vous, des chefs auxquels on fournit, via leur attaché de presse, des trombinoscopes avec les personnalités qui occupent la critique gastronomique. Et là, il y a un tel du Figaro, là, il y a un tel tel journal, etc. Donc, bon, finalement, globalement, une fois sur trois, je suis reconnu. Mais j'essaie de tenir compte. Vous savez, il y a toute une série de critères qui fait qu'on peut juger une adresse, même en sachant qu'éventuellement, on pourrait avoir un traitement de faveur. Quand vous commencez par regarder, par exemple, les assiettes de vos voisins, vous savez exactement, vous rendre à peu près compte de si c'est harmonieux ou pas visuellement. Vous avez des indices, vous avez éventuellement le sourire aussi qui s'affiche sur le client quand il commence à la première bouchée à goûter son plat. Donc tout ça fait que vous finissez en fait par un faisceau de paramètres et de critères à vous faire une idée à peu près valable. Après, évidemment, il y a des tentations, pour employer des grands mots, des tentations de corruption. Ça m'arrive de temps en temps qu'on me glisse un petit plat en plus. Là, je le refuse poliment. Ou éventuellement, ça m'est arrivé de le goûter, mais j'essaye vraiment de le mettre à part dans ma grille de lecture. Mmh. Quand, par exemple, je tourne avec Très Très Bon, j'arrive avec ma caméra, je filme évidemment tout ce que je paye, ça me paraît essentiel, et surtout je paye tout ce que je consomme à la fin. Et effectivement, quand on peut avoir, tenez, il y a le chef qui a fait un essai sur le foie gras, est-ce que vous voulez goûter cette petite portion? Ben là, j'éteins la caméra, éventuellement poliment, parce que je veux pas être désagréable non plus, ça m'arrive de goûter, mais je ne tiens pas compte de cette expérience-là dans le jugement général de l'assiette, et surtout je ne filme pas quand ce n'est pas dans le cadre d'un comportement de client lambda, quoi.
Et pour commencer sur cette espèce de manuel de comment se comporter dans un resto, quand on est un client, est-ce que le client est roi ?
Ah oui. Non seulement le client est roi, mais j'ai de plus en plus de mal avec le restaurant où le chef se prend pour le roi. Ça, c'est un énorme problème. Ce qui d'ailleurs a été le problème des menus imposés, où on commence le dîner avec la fameuse phrase « Est-ce que vous avez des phobies ou des intolérances alimentaires ?» Mmh. Et le chef, en général, décide de tout. Et vous êtes un peu son sujet qui le regarde en l'applaudissant. Et voilà. Alors ça peut marcher avec des chefs qui ont énormément de talent. Moi, des chefs qui ont un talent fou, dont je respecte beaucoup la culture culinaire, l'imaginaire créatif. Là, je ne demande qu'une chose, c'est me laisser faire. Très clairement. Par contre, le problème, c'est cette contagion de menus tout imposés en fonction des arrivages, même si encore une fois ça part d'une bonne intention, parce que l'idée c'est qu'on soit au plus près du produit, que l'on tienne compte des arrivages, qu'on n'ait pas une carte toute faite, et par conséquent il y a des considérations évidemment de gaspillage écologique qui m'intéressent beaucoup dans l'histoire, mais cette manie qui devient un peu systématique du menu imposé fait que le client en réalité est de moins en moins roi. Et ça me pose un problème. Oui, quand on va au restaurant et qu'on paye une addition, on a envie d'exiger aussi un minimum de choix. On a envie d'avoir un service qui est à la hauteur. On a envie de pouvoir dire, même si moi je me considère pas comme un client très chiant, on a envie de pouvoir dire que l'eau n'est pas assez fraîche ou que le pain est tout mou. On a envie de pouvoir dire des choses comme ça, ouais.
Comment on choisit un bon resto, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les indices qui font que, admettons, sans évidemment parler d'aller voir les avis sur Google ou de parler à nos amis, on est dans une ville qu'on ne connaît pas, il faut qu'on trouve un resto. Quels sont les indices qui nous font dire j'ai plus de chances que celui-là soit bon que celui-là?
Déjà, il y a le nom. Enfin, ça paraît assez bête, mais je trouve qu'un nom un peu intelligent, un peu malin, qui fait un clin d'œil à quelque chose. Qui évite les gros jeux de mots balourds, même si moi je suis
assez... Pourtant vous aimez bien les jeux de mots.
Même si je suis assez friand de calembours, mais je veux dire, on peut faire des jeux de mots, mais on peut faire des jeux de mots aussi, un peu oui. Plus dans une forme d'élégance. Ou mm-hmm. Mais vous savez, parfois vous avez vraiment des noms un peu lourdingues, ou vous avez parfois aussi des noms un peu conceptuels en « anse », substance, pertinence, bon voilà, ça c'est des noms aussi qui peuvent être un peu pompeux, mais je crois que le nom il dit quelque chose déjà du restaurant, ou il dit quelque chose de l'intention du chef. Ça me paraît déjà assez important. Après, je pense qu'il y a une espèce d'impression générale visuelle qui se dégage au premier regard. C'est-à-dire quand vous avez un restaurant et que vous regardez de l'extérieur, pour peu que vous ayez un peu accès à la salle, et que vous regardez un peu s'il y a une espèce d'harmonie, de chaleur humaine, s'il y a une décoration pas forcément exactement dans vos critères de goût, mais qui est cohérente dans sa façon d'être. Il y a aussi certainement un signe assez évident, c'est le remplissage du restaurant.
Oui.
Quand vous avez des restaurants pleins à craquer, moi je suis toujours intrigué en passant par des restaurants où vous avez de la buée sur les fenêtres, avec des gens qui sont dans une forme de convivialité.
Oui, ça bouge, ça bouge, ça sourit,
discute, ouais. On voit les assiettes un peu remplies, on sent que les gens prennent du plaisir. Et une adresse pleine midi ou soir, ça attire l'attention, et quand vous débarquez dans une ville, c'est jamais anodin. Ça, pour les coups, vous vous dites, voilà, le chef a roulé sa bosse, il arrive à attirer du monde à tous les services. Ça vous dit quelque chose. Puis après, vous avez la deuxième approche de ce restaurant, où vous approchez de la vitrine et vous commencez, instant fatidique, à regarder la carte. Et là, pour le coup, la carte, quand on est un peu gourmet, on la scanne en 4 secondes et on arrive à peu près à se rendre compte si ça vaut le coup ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses rédhibitoires Et il y a des indices qui sont de très bonnes nouvelles.
Parce qu'il y a le côté déjà pas trop de trucs sur la carte.
Ça, vous avez raison.
Ça, c'est un peu le classique qu'on dit, mais c'est vrai que c'est important parce que ça ouais. permet de savoir que c'est frais. Que,
évidemment.
En tout cas... Mais qu'est-ce qui est rédhibitoire ?
Bon, ce qui est rédhibitoire, c'est.
Moi, j'ai les modes culinaires. Quand il y a des trucs que je vois sur toutes les cartes des restos en ce moment, je me dis, ah, c'est encore un resto qui sort sur. Je sais pas, les. En ce moment, par exemple, j'ai l'impression que le carré de cochon, c'est un exemple qui vient en tête, mais il y en a d'autres peut-être. Ou la croquette d'agneau, par exemple.
Je suis d'accord.
On la voit partout.
Ouais.
Et donc, si je la vois, je me dis, la première fois, j'ai dû me dire, ah cool. La quatrième ou cinquième fois, je me dis, bon, ok, il va falloir qu'il me convainc sur autre chose, ce resto.
Je suis assez d'accord. Même si le carré de cochon, pour peu que le porc soit bien sourcé et soit bien fait, ça peut être encore une belle chose. Mais vous avez, je suis d'accord avec vous, mais après, par exemple, je me méfie un tout petit peu quand je vois saumon. Et qu'il n'y a pas forcément le sourcing du saumon, parce que maintenant le saumon, on sait que c'est quand même un poisson qu'il ne faut manger que dans certaines conditions. On connaît le désastre des élevages intensifs au nord de l'Europe. Et là, pour le coup, quand il n'y a aucune indication sur le saumon, bon, on se dit que ce n'est pas forcément le plat qui est le plus affriolant sur la carte. Bon, il y a carrément des désastres, évidemment, mais là, on passe son chemin quand on voit le chef qui essaye de faire des pâtes à l'italienne en y ajoutant de la crème. Ou, là, on se dit que ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Puis après, effectivement, vous avez raison, il y a un peu tous ces clichés du chef en région qui va essayer de se mettre à l'avocado toast. Bon... L'avocado toast dans une petite adresse régionale, je le laisse gentiment de côté. Je me dis que c'est pas forcément la meilleure preuve de qualité. Mais si vous avez un petit sourcing un peu qualitatif, avec un accent qui est mis sur des produits locaux, avec une petite influence quand vous êtes en région, une petite influence locale, une recette un peu réinterprétée, là vous vous dites que ça peut être au pire une expérience et au mieux un voyage.
Ouais. Qu'est-ce qui fait un bon client ?
C'est un client qui est disponible, mais un client qui reste exigeant et vigilant. Voilà. Je crois que les chefs, ils sont très heureux lorsqu'ils ont à leur table. Non pas des touristes qui n'ont pas trop l'habitude et qui disent oui à tout, même si ça peut être assez pratique de voir des Russes débarquer et se faire les vins les plus chers de la carte. Mais globalement, je crois que Le chef prend son pied et il trouve son compte dans son métier lorsqu'il a en face de lui, et je crois que le gourmet français moyen a cette réputation, quelqu'un qui évidemment arrive l'esprit ouvert, l'appétit ouvert évidemment, mais garde une forme d'exigence. Voilà. Et ça, je crois que c'est ce qui peut définir un peu le gourmet français idéal, celui qui sait apprécier ce que c'est que un très bon jus, bien dense, bien concentré, sapide, qui sait apprécier la cuisson d'un poisson, qui sait également reconnaître quelques apprêts ou quelques recettes classiques de notre répertoire, et qui en même temps peut être en effet un peu tatillon sur un certain nombre de détails. Voilà, et ça ce débat-là m'intéresse. J'étais dans un restaurant en province l'autre jour. Il y avait un chef qui faisait une très bonne banquette et le client commençait à lui demander à quel moment il avait citronné sa sauce. Est-ce qu'il avait lié la sauce crémée de la blanquette avec un jaune d'œuf juste à la fin avant d'envoyer en salle? Et ce genre de questions, bah, d'abord ça stimule le chef, ça montre que le client est attentif, et puis en plus ça fait avancer le débat et ça crée cette espèce de... Ouais, de côté qui fait notre côté français, quoi. On discute en permanence de ce qu'on mange.
Du coup, j'ai l'impression que, selon ce que vous dites, ce qui fait un bon chef, c'est un chef qui est disponible pour essayer de discuter, d'arriver à prendre le temps d'échanger, même si évidemment c'est toujours des heures de travail très denses.
Incontestablement.
Mais le chef, oui, le bon chef, c'est celui qui prend le temps d'aller en salle, discuter avec ses clients.
Moi, je vous raconte une scène qui m'a un peu choqué. Et qui m'a valu d'ailleurs d'être un peu en froid avec ce chef pendant pas mal de temps. Je l'ai jamais raconté, mais allons-y. Jean-François Piège ouvre Tout Mieux, un restaurant dans le 7e arrondissement. Je déboule là-bas, j'y fais un dîner tout à fait honorable, avec des plats créatifs, inventifs, d'excellents produits, etc. Jean-François Piège est un chef qui a une immense culture gastronomique et qui en plus est un très bon technicien. C'est vraiment quelqu'un dont on ne peut pas suspecter qu'il n'est pas un cuisinier, quoi. C'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Mais il y a une scène qui m'a un peu choqué, c'est cette scène où il a sermonné deux clients à la fin. On sentait que c'était deux jeunes gourmets qui avaient cassé leur tirelire pour dépenser 150 euros par personne. Et il s'était permis de dire que la cuisson de la Saint-Jacques, il l'avait trouvée un peu sous-cuite parce qu'ils aimaient cette Saint-Jacques snackée entière dans une poêle, légèrement colorée. Vous savez, quand ça commence un peu à grilloter et quand ça commence un peu à colorer, parce que c'est tout simplement les sucs qui caramélisent et ça apporte un peu de texture et de goût. Et Jean-François Piège était arrivé auprès de ses clients en disant « Ah non, mais pas du tout. La Saint-Jacques, ça se cuit plutôt blanc, nacré. Il faut absolument pas l'agresser avec une cuisson un peu forte. Faut pas la colorer. C'est pas comme ça que ça se mange. » Voilà. Ben ça, c'est un exemple d'un chef qui s'est pas mis au service de ses clients.
Oui.
Et qui les a pas vraiment écoutés. Et quel que soit l'avis qu'on a sur la cuisson de la Saint-Jacques, moi, en l'occurrence, j'étais plutôt de l'avis des clients, le client, on l'écoute, en fait. On l'écoute d'autant plus que, à la fin, il peut laisser une somme assez lourde sur l'addition. Et par conséquent, j'avais trouvé l'attitude de ce chef totalement déplacée.
Qu'est-ce qui fait un bon service?
Un bon service, c'est un service qui est à la fois efficace et qui donne l'impression d'être détendu. Et ça, c'est un truc qui est pas simple. Soit vous avez un service qui, en gros, est un peu je m'en foutiste. Là, vous sentez qu'il y a des à-coups, il y a des soubresauts, ça manque de fluidité. En général, vous attendez beaucoup. Un peu nonchalant, ça, j'aime pas trop. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être très sympa, mais qui vient vous demander... trois fois la même chose, mais excusez-moi, vous vouliez de la Châteldon ou de la valse. Bon, voilà, ça peut arriver, c'est un peu agaçant, ça peut arriver une fois, hein. Tout le monde a le droit d'avoir un petit trou de mémoire, mais en général, vous repérez assez vite ceux qui sont pas vraiment concentrés sur leur tâche. Et moi, j'aime bien le service qui allie les deux, c'est-à-dire un service qui est encore une fois tout à fait dynamique, qui est fluide, qui sait mettre les manières pour vous apporter des plats, pour venir prendre votre commande, pour même être assez enthousiaste et engageant dans la façon dont il présente les plats du jour, etc. Et puis qui, on sent que le serveur ou la serveuse est au taquet, mais ils arrivent à garder encore une fois cette forme de convivialité et puis cette forme de complicité avec le client sans être dans la familiarité. Parce qu'il y a ça aussi, il faut faire attention à ne pas tomber à l'excès je commence à me foutre ouvertement et gentiment de la gueule du client, ça peut arriver aussi. Donc c'est un juste milieu entre professionnalisme et convivialité à trouver.
C'est vrai que le curseur, il est important parce que là, depuis peut-être 5-6 ans, enfin même pas plus avec le développement du fooding, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de restos qui étaient des restos cool, où les serveurs étaient cool, tout le monde était cool, on n'était pas habillé en costard, on était habillé, on servait, on tutoyait potentiellement les clients. Et j'ai l'impression que le curseur, il a parfois un peu vrillé de l'autre côté, où c'est trop de nonchalance, ou peut-être trop de copinage aussi. J'ai l'impression que si on n'est pas pote avec eux, moi ça m'est arrivé par exemple des restos que j'adore, où je connais les chefs, où je connais les serveurs, ils me reçoivent toujours très bien, j'y envoie des amis, et qui me disent, ils ont été odieux avec nous, ils nous ont pas servi. Et j'ai l'impression que c'est aussi l'autre curseur inverse.
Ouais. C'est un peu le problème d'une certaine génération de restaurants qui sont vraiment dans la lumière, qui ont eu des prix fooding sur lesquels beaucoup de journalistes ont écrit, moi le premier d'ailleurs. Hein. J'ai contribué au succès, je dis bien parce qu'encore une fois on est beaucoup, mais au succès de certains restaurants. Et là, tout d'un coup, on sent un changement d'attitude. Et là, c'est pas forcément d'ailleurs avec les gens en question ou les journalistes, mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'observer dans des restaurants. Un peu sous les feux de la rampe, un changement d'attitude du service avec le client alléché par des critiques très positives ou par des prix ou par une étoile Michelin, décide d'y aller. Et puis tout d'un coup, dès qu'il s'adresse au serveur ou au chef de salle pour lui demander ce que c'est que du yuzu, alors maintenant on sait à peu près tout ce que c'est un agrume japonais, mais à une époque le yuzu n'était pas tellement connu, il m'est arrivé de voir des chefs de salle ou des serveurs regarder le client de haut en répondant à peine et en disant en gros ça voulait dire si tu sais pas ce que c'est que le yuzu, t'es pas de ma bande, t'as rien à faire ici en fait. Et là, on a assisté évidemment à des excès. Alors on peut mettre ça sur le compte d'une certaine nonchalance ou voire même d'une forme de snobisme ou de prétention. Mais là, c'était vraiment... Il y a eu des excès dans ce sens-là. Après, j'ai l'impression que les choses se rééquilibrent. Mais c'est vrai que la résistance d'un restaurant avec ses équipes, son cuisinier, son chef de salle, tout son staff, cette résistance-là par rapport au succès médiatique, il n'est pas toujours facile à gérer. Donc forcément, il y a des égos qui se boursouflent. Il y en a au contraire qui arrivent à garder les pieds sur terre et qui se disent « Ouh là là, attention, ça peut retomber aussi sec demain ». Ça dépend un peu des tempéraments de chacun.
Et c'est vrai qu'on revient sur le truc du critique, mais moi, par exemple, quand je conseille des restos à des potes, il faut que je fasse attention à ce que ils soient aussi cool pour eux que quand moi j'y suis allé, mais à la limite, c'est juste mes potes. Mais c'est vrai que vous, quand vous écrivez sur un resto, vous devez être sûr à 99% que les gens que vous allez y envoyer et qui seront nombreux.
Ouais.
vont avoir la même expérience ou au moins une expérience très similaire.
Ouais, c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire attention. Et puis ça peut aussi, très honnêtement, l'erreur est humaine, de me tromper.
Ouais.
Je peux surévaluer un restaurant, le sous-évaluer. Il m'est arrivé à une certaine époque de ma carrière, maintenant j'ai un peu grandi, j'ai pris un peu d'âge, j'ai certainement plus d'expérience et je pense que je suis... certainement un meilleur critique gastronomique que je ne l'étais à mes débuts en 2006, où globalement en 2006 j'avais des choses à prouver, je me faisais parfois un peu les dents sur les mollets de certains chefs, je pouvais m'exciter sur un petit critère qu'aujourd'hui j'aurais tendance à relativiser. Donc il y a un certain nombre de choses qui fait qu'aujourd'hui, je ne dis pas que je pense avoir le jugement juste, parce qu'encore une fois, d'abord, ça dépend, d'abord on peut se tromper, et puis ça dépend aussi des circonstances. Un restaurant le mardi... 18 janvier au déjeuner ne ressemblera pas au restaurant le vendredi 19 juin de l'année d'après. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même ça dont il faut tenir compte. Après, j'essaye de dégager le jugement le plus juste possible en tenant compte de critères et de paramètres les plus objectifs possibles.
On fait quoi avec Instagram au resto ?
Bon, on prend des photos allègrement.
Ouais.
On peut le faire d'autant plus facilement que tout le monde le fait. Mais on prend des photos en essayant d'être un peu pudique ou attentif aussi à des choses auxquelles le chef tient, comme la température du plat. Lorsqu'Alexandre Gauthier disait « Moi, j'ai interdit les appareils photos dans mon restaurant », gentiment, je lui avais envoyé un petit SMS en lui disant que je l'avais trouvé légèrement excessif, etc. Et en même temps, je ne peux que comprendre un chef qui... à un perfectionnisme ancré en lui pour servir un menu dans un rythme très précis, avec des températures, des dressages extrêmement précis. Quand vous avez tout d'un coup celui qui se lève, qui limite, met ses deux pieds sur la chaise pour prendre de la hauteur et faire sa photo, qui se rassoit 7 minutes plus tard, qui commence à manger froid, qui du coup désordonne complètement le service, je peux comprendre qu'il y a certains chefs qui soient agacés, quoi. Je pense qu'on peut tout à fait prendre des photos, on peut le faire discrètement, sans être tout d'un coup dans une espèce de, sans être au bord du tapis rouge à Cannes, quoi. Voilà, on peut le faire. Et moi, je prends des photos en plus par mémoire visuelle. Oui. C'est-à-dire que désormais, je ne prends plus vraiment de notes. Mais pour me souvenir de ce que j'ai mangé, j'ai vraiment besoin de prendre des photos. Donc en plus de ça, s'ajoute une contrainte professionnelle.
Merci à François Régis d'avoir pris le temps de venir nous raconter tout ça. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, puisqu'il a dit que c'est bon pour les photos de bouffe au resto. Mais aussi sur France Inter, Paris Première et L'Express. Et maintenant, place au chef, place à la cuisine, place à Tommaso Melilli. Tommaso a une double casquette de cuistot et d'auteur. Il est passé par tout un tas de cuisines à Paris avec une première expérience dans une table d'hôte avec quelques places où il a pu observer des clients de très près, leurs bonnes et leurs mauvaises habitudes. J'ai pu lui poser les questions qui me travaillaient sur le métier de chef. On a parlé livres de recettes et de pourquoi c'est un peu de notre faute si les menus des restos sont de plus en plus alambiqués.
J'ai passé pendant 2 ans, je faisais 6 soirs par semaine, pendant 2 ans, tout le temps, sans vacances. Donc il y avait entre 4 et 6 personnes à chaque fois. Donc j'ai eu affaire avec quelques milliers de personnes avec qui j'ai à chaque fois passé au moins 3 heures de soirée. En écoutant leurs discours, en écoutant ce que les gens avaient à se dire, en écoutant les pires clichés qu'ils avaient envie de manifester en face de moi, parce que donc la maman, et c'était à peu près tout le temps la même chose. Il y avait un petit pourcentage que tout restaurateur reconnaît comme vrai, c'est-à-dire du 10% de gens vraiment intéressants, qui sont ceux qui nous donnent envie de continuer à faire ce métier.
Que 10%?
Que 10%, oui. Bah après, il y a des gens polis, mais oui, qui ne sont pas forcément intéressants. Et après, il y a quand même pas mal de connards. Donc, et il y a aussi des gens assez molestes.
Ouais, ouais. Parce que les connards, même dans un événement, dans un établissement où il y a très petit comme ça, il se manifeste quand même sans pitié.
Sans pitié, non, d'autant plus parce qu'il y a l'émotion du côté privatif.
Oui, c'est donc, chez moi en fait.
Oui, c'est chez moi, donc je peux faire ce que je veux.
Pour prendre dans l'ensemble de tes expériences, et peut-être particulièrement celle que tu as eue au comptoir, moi il y a un truc qui m'étonne toujours, mais parce que en fait, je crois que c'est un truc que je ne connais pas parce que je ne suis pas du métier, mais tu dis par exemple que tu fais la cuisine par rapport à ce qui arrive le matin, donc que tu peux complètement changer d'avis une heure avant le service. Et ça, pour les néophytes dont je fais partie, moi, ça me, tu vois, par exemple, si je fais une recette, il faut que je l'ai préparée pendant 2 semaines, tu vois, il faut que j'y réfléchisse et tout. Et je me dis toujours comment les chefs, parce qu'on entend souvent parler, même dans les épisodes de documentaires, etc., où les chefs expliquent qu'ils improvisent vraiment à ce qui, souvent, ce qui arrive le matin. Comment on fait, en fait? Est-ce que t'as une liste énorme de recettes dans la tête et t'improvises à partir de là, ou est-ce que t'as quelques petites techniques qu'en fait t'arrives à toujours un peu replacer partout?
Bah, alors, il y a un petit moment de démystification avant tout ça, c'est que nous, on a tendance à penser, quand on va au restaurant, quand on mange en tant que non professionnel, on a tendance à penser que les associations des saveurs, surtout une viande ou un poisson avec un certain légume, sont très réfléchies et très... Or, honnêtement, pour tout dire, la plupart des, une bonne majorité des viandes et des poissons fonctionnent avec n'importe quel légume. C'est pas très compliqué. Ou éventuellement avec une petite intervention sur le légume ou sur la viande. Donc, un peu de citron, un peu d'acidité, une cuisson particulière et tout. Et ensuite, non, il n'y a pas forcément de recette. Bah, par exemple, pour les plats plus traditionnels et plus qui correspondent à une culture, donc pour les plats qui ont un nom, on va dire. Alors qu'il y a des plats qui sont tout simplement filet mignon de cochon avec des blettes et une autre sauce. Ça, c'est pas un plat. C'est pas un plat qui a un nom. C'est un assemblage de choses qui peuvent être tontantes ou pas. Et pour les plats qui ont un nom, oui. Alors, on se retrouve à penser, à se dire, bah, est-ce que j'ai de l'ajout de porc séché? Est-ce que j'ai des œufs? Est-ce que j'ai le fromage qu'il me faut? Est-ce que j'ai les pâtes d'un format qui m'arrange et qui me convient? Non, j'ai plus de poivre, donc je ne peux pas faire une carbonara. Donc, mais sinon, j'essaie de voir les choses d'une autre façon. Et à chaque fois. Donc ça, c'est pour les plats... Sinon, j'ai de l'épaule de veau, j'ai fait une blanquette. Mais je n'ai pas de champignons, du coup, je n'ai pas envie de faire une blanquette sans champignons. Donc, je revois les choses d'une autre façon à chaque fois. Et donc, il y a à la base des idées qu'on peut avoir, et puis on développe, et puis on assemble. Et puis on fait un assemblage. Et le plus souvent, je me retrouve à prendre les choses chacun dans son, quand il y a un assemblage, surtout, je me retrouve à prendre les choses, chaque élément en soi que j'ai envie. Je me réveille le matin et j'ai très envie de cuisiner des blettes. J'ai très envie de blettes. Du coup, je me mets à travailler beaucoup sur ces blettes. Et après, il se peut que ça devienne une entrée ou un accompagnement de la viande ou du poisson. Et après, c'est un puzzle. À un moment donné, il reste des places libres et on essaie de caler ce qui est... au fur et à mesure de la matinée, mais ça se passe en 1h30. Hein, tout oui, ça. Oui. En plus, je me lève très tard le matin, donc j'arrivais à 10h30 la plupart du temps, et à midi, je commençais le service.
Ok, c'est pas à 6h du matin, t'es au marché, tu regardes ce qu'il y a.
Non, pas vraiment, c'était pas vraiment.
Ça veut dire, c'est un peu un mythe, le chef qui va faire le marché lui-même, où il y en a, où ça dépend de l'humeur.
Il y en a un, ça dépend. On peut, bah, la plupart du temps, à Paris, déjà, les marchés sont pas les plus... Enfin, depuis qu'il y a plus Rungis, on va faire de l'appoint au marché. Je peux savoir que mon fournisseur n'a pas de bons artichauts. Donc, ça m'est arrivé très souvent de prendre ma moto le matin et d'aller prendre 2 cagettes d'artichauts à Ligre. Ça m'est arrivé. Et en passant un coup de... Mais par contre, en passant un coup de fil au mec du marché le soir d'avant, pour qu'il me les prenne et qu'il me les mette de côté.
Oui, au général, tu vas soit prendre un petit truc qui te manque, soit un truc, oui. Mais c'est pas, y a pas un truc de.
Et j'ai aussi, ça dépend. Il y a des fois, parfois, quand j'ai travaillé à côté de Bastille, justement à côté d'Aligre, et la plupart du temps, j'y allais même pas. Je commandais la veille les choses dont je savais qu'il y avait des quantités conséquentes, donc j'allais lui braquer le banc, en gros.
Oui, t'allais tout prendre.
Oui, j'allais tout prendre.
Il n'y avait plus rien à vendre.
Mais sinon, j'allais le matin et j'allais regarder ce qu'il avait. Et je lui disais, mais en réalité, il faut penser, c'est vraiment très très rare d'avoir un contact avec les fournisseurs, surtout avec les maraîchers. Non, le poisson, ça se fait la veille, ça se passe la veille. Donc, la veille du matin, il y a la criée, on reçoit des mercuriaires, dans le meilleur des cas, hein, quand on fait de la pêche sauvage. Sinon, on appelle et eux, ils décongèlent et ils envoient.
Ouais.
On appelle le soir, ils décongèlent pendant la nuit, ils envoient le matin. C'est pas très compliqué. Mais sinon, la plupart du temps, tout passe par Rungis.
Oui. Donc, oui, pour Paris, tout passe par Rungis.
Donc, en fait, on a affaire avec un interlocuteur qui a sa façon de sélectionner les choses. Donc, qui peut avoir un compromis entre la qualité et le prix et certains types de techniques de production et d'éthique de production. Donc, c'est avec ça qu'on choisit un producteur. Et donc, on lui fait confiance, mais finalement, on lui demande d'aller nous chercher des choses à notre place.
Oui. C'est ça, en fait.
Il faut un peu démythifier cette histoire. Oui, après, si on est à l'impassard et on a 30 personnes en cuisine et 45 qui font tourner le reste de l'affaire et 5 en administration qui font les paniers et machin, oui, bien sûr, on peut aller faire des allers-retours pendant la journée dans les fermes, dans une ferme d'un côté et une ferme de l'autre pour voir si les navets sont au point. Mais c'est très beau, c'est magnifique de sa part d'avoir fait développer tout ça et d'avoir. Après, il y en a de plus en plus. Il y a le Paul Bert, il y a Martin. Il y en a de plus en plus qui commencent à avoir une petite ferme. Mais il faut être développé. Il faut avoir une.
Oui, le bistrot du coin, lui, il a son fournisseur à Rungis. Il lui fait confiance parce que. Il lui fait les tarifs et la qualité à peu près qu'il veut.
Oui, mais après, on peut avoir aussi des maraîchers qui font leur tournée une fois par semaine et qui ont... y en a un qui a des pommes de terre, des oignons et des navets. Et qui a, mais par contre, il a tout le temps ça et que ça. Donc, il y a plein de réalités, plein de formes. Donc, c'est à la personne qui travaille à chaque fois de faire un peu le point sur les coûts et sur les prix. Parce que c'est clair, c'est un plat de jour à 2 euros, il faut trouver un peu la cadre et puis trouver le temps d'aller voir les champs, de goûter, d'assembler les choses, parce que le plus de fournisseurs on a, le plus de temps on perd, en fait.
Oui.
Parce qu'il n'y en a jamais un qui est à l'heure.
Oui.
Jamais. Il n'y en a jamais un qui est à l'heure. Il n'y en a jamais un qui t'amène précisément ce que tu lui avais demandé. S'il t'amène précisément ce que tu lui avais demandé, il y a un ou deux choses qui ont tourné.
Oui.
Surtout dans les légumes. Donc, si j'ai deux fournisseurs de légumes, encore j'y arrive, parce que j'étais toute seule en l'occurrence, ça dépend aussi de la structure. J'étais toute seule, mais si j'en ai 8 pour avoir toujours à chaque fois le légume que je veux, ben ça veut dire que j'ai passé 1h30 au téléphone le soir.
Ouais. Et puis il faut qu'il va te manquer
déjà, j'ai passé une demi-heure. Donc, ouais.
Alors un autre mythe, est-ce que ça t'arrive, ou est-ce que tu sais si en général dans la restauration ça se fait, de chercher des inspirations dans des livres ou sur internet, ou même des fois de regarder des recettes parce qu'on a une recette qu'on ne sait pas vraiment bien faire et on regarde dans un livre tout bête comme une cuisinière ou un cuisinier?
Bien sûr, on est comme tout le monde. On est comme tout le monde, on n'est pas...
Parce que tu vois, il y a cette idée de l'inspiration divine du chef qui en fait connaît toutes les recettes par cœur et qui
arrive à les ressentir. Non, mais en fait, les recettes en cuisine n'existent pas. En cuisine professionnelle, les recettes n'existent pas. Elles existent chez les cuisiniers pharmaciens. C'est-à-dire ceux qui font du sous-vide, ceux qui sont passés dans des techniques qui, pour moi, mais c'est un avis personnel, sont des techniques qui amènent vers une industrialisation de la cuisine. Or, pour moi, la cuisine, ça, c'est et ça reste une question d'instinct, de perception de chaque être humain qui est dans la cuisine. Donc, pour savoir si une viande est cuite, on la touche. On sent ce... Pour savoir s'il y a assez de sel dans une viande ou dans les pâtes, on le sait par le nez. Parce que si dans les pâtes, quand on les égoutte, il n'y a pas assez de sel, on sentira un côté... sucré et beurré du blé qui remonte. Si dans une viande rouge surtout, il n'y a pas de sel, ça va sentir le sang. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on continue à travailler, et j'ajoute, c'est comme ça que ça peut rester un métier intéressant et un vrai métier. Parce que sinon, on peut avoir une personne ou l'autre. Sinon, le caractère humain disparaît. L'intérêt du caractère humain disparaît complètement. Donc, on s'est un peu enivré de technologie pendant plusieurs années. Je vois même que la plupart des gens pour lesquels j'ai une estime et qui sont aussi très connus et, de plus en plus importants font le choix de se dire non, je ne vais pas cuire un pigeon sous vide pour le sortir d'une pochette qui ensuite sont mauvais et le saisir sur la peau. Je vais prendre mon pigeon, le cuire sur le coffre et puis voilà. Sinon, c'est pas drôle.
Oui.
Tu sais toujours que c'est réussi.
Tu penses que c'est important d'avoir un peu de la possibilité que ça foire, que tu rates ta recette?
Ben oui.
T'as toujours moyen de la récupérer si elle foire, genre à une demi-heure du service?
Même pas à une demi-heure du service. Il y a moyen de la récupérer pendant le service, quand on se rend compte qu'on l'a foirée. Typiquement, un pigeon, ça va très vite. Hein. Si tu dépasses 6 minutes de cuisson, c'est trop cuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce pigeon-là qu'on a trop cuit? Est-ce qu'on le sert quand même? Est-ce qu'on le garde de côté un peu au chaud si jamais il y en a un qui fait chier ensuite? Le même auquel tu auras envoyé le deuxième bien cuit, qui ensuite le renvoie parce qu'il trouve que c'est pas assez cuit. Donc, tu le gardes à côté. Et puis, si tu le gardes à côté pendant une petite dizaine de minutes, sinon, on fait un ragoût, on le fait dans des pâtes. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est la chose drôle de ce métier.
Et c'est pour ça que tu parlais, c'est l'adaptabilité, et qu'en fait, les gens qui suivent des règles très précises sauront pas quoi faire si d'un coup tout part en vrille, alors que toi, comme tu es plus dans l'improvisation, tu sauras toujours rebondir, en fait, c'est ça que tu penses aussi ?
Mais oui, bien sûr. Mais c'est une façon beaucoup plus intéressante d'imaginer sa vie. C'est pour ça que je pense que ce métier. J'ai écrit ce bouquin aussi pour. C'est une histoire de formation, donc, finalement. Et je pense qu'il n'y a toujours pas encore assez. Il y a toujours plein de gens qui pourraient s'éclater et trouver du bonheur en faisant ce métier et qui ne le savent pas. Et qui ne le savent pas parce qu'il y a tout un tas de préjugés bourgeois ou etc.
Et pour revenir sur la vie du chef, du restaurateur, à un moment, tu parles donc du menu, de comment on fait un menu, et tu te rends compte que tu fais un peu des essais, tu te rends compte qu'en fait, c'est hyper important en fait, le choix des mots. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tu te rends compte que juste un mot en plus, en moins, ou une définition un peu peut-être trop vague, ou des fois même pas assez vague, va faire que les gens ne vont pas prendre les plats.
Bien sûr, là, dans le bouquin, je fais l'exemple d'un plat du Piémont qui s'appelle bagna cauda, donc qui en gros bagna cauda, ça se prononce, et qui en gros est une crème d'ail confit pendant 2 heures dans de l'huile d'olive avec des anchois et ensuite mixé, enfin effiloché jusqu'à devenir une crème et dans laquelle qui est servie chaude au milieu de la table, dans laquelle on plonge plein de légumes cuits et crus. Donc c'est un peu comme une fondue, mais plus ou moins végétarienne si on se passe de l'anchois, si on laisse tomber l'anchois. Et donc je faisais ça, moi je faisais plein de petits légumes au milieu de l'assiette et j'ai nappé avec cette sauce d'ail. Donc on se posait la question de comment l'appeler, parce que moi j'adorais ça, j'étais très content de l'avoir fait, c'était coloré, c'était légumier, c'était une entrée, c'était ça chauffait, voilà. L'ail était très bien cuit, donc pas très fort, machin. Donc on l'appelle, après une longue discussion, petit potager de légumes du comptoir et sa sauce à l'ail confit. Donc on a eu une trentaine de clients ce jour-là, j'en ai vendu un qui était un client habitué, qui était juste à côté de la cuisine et qu'il a pris essentiellement par coercition parce que je l'ai forcé. Il a adoré, mais bon. Du coup je me suis dit, quand même, non, là ça ne va pas, je vais faire un test. Je vais essayer de le garder toute la semaine en changeant le nom tous les jours. De toute façon le point de la question c'était de changer la carte tous les jours, tout. Mais du coup je pouvais aussi changer les intitulés tous les jours. Parce qu'en réalité en changeant l'intitulé on change le plat, même si ce qu'on met dans l'assiette est exactement la même chose. Et c'est ça, le point de la question. Donc, le dernier jour, on l'a appelé, comme il y avait ce côté légumes et le côté sauce, on l'a appelé aioli de légumes à la piémontaise. Il y avait le côté ail, bon, voilà, ça faisait... J'en ai vendu une dizaine, mais les clients ont réagi en disant, c'est très bon, mais c'est pas un aioli. Super. Donc là, il y avait forcément un problème identitaire par rapport à la chose. Je m'attends quoi d'un nom? J'ai autre chose, donc je sais pas. Je me suis ensuite imposé, j'ai dit, on va l'appeler, entre guillemets, bagna cauda, donc, comme ça s'appelle, et c'est légumes de saison, histoire que les gens comprennent que c'est plutôt sur le légume que sur du foie de veau. Et on l'explique. Et ensuite, on l'explique. Ils disent, c'est quoi bagna cauda? Et on l'a expliqué, et j'en ai vendu 25. Mais pourquoi? Parce que ce jour-là, on a eu le temps d'expliquer. Un autre jour, on aurait eu 50 couverts, on n'aurait pas eu le temps de l'expliquer, et donc ça n'aurait pas, on n'en aurait peut-être pas du tout vendu. Ou peut-être que si, ça, on ne sait pas. Et donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, il y a plein de gens qui ont envie de découvrir quelque chose de nouveau, donc de ne absolument pas savoir ce qu'ils vont se retrouver dans l'assiette parce qu'ils vont vers une découverte. Ça se passe très souvent sur les légumes, ça. Donc sur les légumes, ça marche très bien. C'est souvent j'invente même des façons de cuisiner des légumes, j'appelle des choses genre des légumes je sais pas, des haricots verts à la romaine. Il y a absolument pas d'haricots verts à la romaine, ça n'a jamais existé, mais une façon que j'ai choisi de cuisiner des choses, au plutôt de dire haricots verts sauce tomate persil et oseille, allez haricots verts à la romaine. Et du coup, ça chauffe le cœur, les gens ont beaucoup plus envie de le prendre.
C'est drôle, hein, que vraiment, c'est aussi un des travaux des restaurateurs et des serveurs d'essayer d'imaginer une façon claire et en même temps poétique, parce que c'est ça aussi, comme tu disais, qui attire les gens, c'est de dire, quand tu dis à la romaine, même si c'est pas vraiment à la romaine, les gens s'imaginent, peut-être même vont apprécier le plat différemment quand il arrivera.
ils s'imaginent, et parce que ça leur fait rêver, ça leur laisse fait imaginer une anthropologie et une communauté derrière. On imagine qu'il y a une communauté derrière. Et donc, on a envie de participer à cette autre communauté. Ce qui est un des sentiments plus nobles qu'un être humain puisse avoir, je pense.
Oui, c'est vrai que derrière ce plat, il y a l'ensemble de la cuisine romaine qui a été convoquée par toi.
Exact, exact.
Merci à Tommaso. Son livre Spaghetti Wars est dispo un peu partout. Il est édité chez la super maison d'édition Nourriture Fu. Et merci encore à François Régis. Pour finir, je voulais juste vous conseiller un article de Munchies en anglais qui explique pourquoi le poulet frit est souvent meilleur quand il est fait par des franchises. On mettra le lien dans la barre d'infos. C'est un article passionnant, vous verrez. Et aussi, bah, avec tous les autres liens qui sont adresses, tout ça, qui seront aussi dans la barre d'infos. On a également une carte Mapster avec toutes les adresses des invités. Puis voilà, c'est la fin de cet épisode. Retrouvez-nous sur Insta et Twitter @bouffonne. Bouffon, c'est une émission de nouvelles écoutes que j'anime moi, Guillaume Alissen, enregistrée par Ashley Tola, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, production et coordination Laura Cuissard. N'hésitez pas à parler de Bouffon autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Ça nous fait toujours très plaisir. À la semaine prochaine.